ces catastrophes. Et donc il va regrouper tous ces gens cabossés, et non pas les plus forts, hein, et il va créer un peuple à partir de tous ces gens blessés, humiliés, cabossés. Création d'un nouveau peuple, une nouvelle alliance. Des jours viendront où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Elle sera différente de l'alliance que j'ai conclue avec leurs pères quand je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Eux, ces pères, donc, ils ont rompu mon alliance. Mais moi, je reste maître chez eux. Voici donc l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux deviendront un peuple pour moi. Ils ne s'instruiront plus entre compagnons, entre frères, répétant: Apprenez à connaître le Seigneur, car ils me connaîtront tous, petits et grands. Je pardonne leurs crimes, leurs fautes, je n'en parle plus. C'est liquidé. Hein? Et on ne va pas revenir sur toutes les fautes. Il prend ces gens cabossés qui ont peut-être fait aussi pas mal de conneries, qui sont.
C'est Jérémie 31.
Jérémie 31.
C'est bien que tu le dises pour le micro.
Ouais.
D'accord. Alors ainsi dit Yahvé, je vais prendre les fils d'Israël d'entre les nations, qui sont dispersés, hein, où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur sol. Je ferai d'eux une nation unique dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Un roi unique sera leur roi à tous. Ils ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés entre eux. Ils ne se souilleront plus avec leurs idoles et leurs horreurs, ni par toutes leurs révoltes. Je les délivrerai de tous les lieux où ils habitent, les lieux où ils ont péché. Je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David, c'est celui, le roi, qui avait eu la promesse, hein, de l'éternité du royaume.
Il y a 500 ans.
Il y a 500 ans. Mon serviteur David régnera sur eux. C'est-à-dire les descendants de David. Hein. Berger unique pour eux tous. Ils marcheront selon mes coutumes. Ils garderont mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, le pays où vos pères ont habité. Ils y habiteront, eux, leurs fils, les fils de leurs fils, pour toujours. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance perpétuelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera auprès d'eux. Je serai leur Dieu et eux seront mon peuple. Alors, toutes les nations connaîtront que je suis Yahvé qui consacre Israël lorsque je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ouais,
donc vous avez la référence?
là, c'est Ésaïe 37. Donc, oui.
Parce qu'il y a eu beaucoup de promesses faites, mais c'était à des milliers d'années, et à quel moment elles se sont réalisées?
Alors, c'est ce que l'on est en train de voir, c'était justement ce cheminement de la promesse. Donc, il y a une première promesse faite à Abraham, je ne sais pas si tu te souviens, après à Moïse, et cette promesse se renouvelle, et ça aboutit, puisque derrière, il n'y a pas eu, il y a eu le culte des idoles, enfin la justice, ces deux aspects fondamentaux, qui ont provoqué, qui provoquent, je dirais presque mécaniquement, la disparition de ce peuple. Donc, la promesse est maintenue. Dieu est Dieu. S'il a fait une promesse, il a dit que ce serait éternel et maintenu. Mais face à cette disparition, il y a d'une certaine façon une nouvelle création. Hein, une nouvelle création, mais qui a un lien avec l'époque précédente. Mais cette loi, la loi, elle a buté sur le fait que c'était un cœur. il dit, c'était un cœur de pierre. On a appliqué la loi, mais d'une façon externe. Et donc, il va changer le cœur des individus.
En fait, on n'obtient pas ce qu'on attend.
Ouais,
voilà.
C'est ça.
Enfin, on n'obtient pas ce qu'on attend.
Parce que finalement, ça fait, ils sont patients, parce que ça fait ça 10 000 ans que...
Pas 10 000 ans. Il y a 1000 ans, quoi. Même pas 500 ans, là.
Ouais. Non, mais depuis Abraham.
Oui, depuis Abraham. Parce que... Mettons comme si tu en 1500.
Non, mais quelques milliers d'années.
Oui, ouais, quelques dizaines, quelques centaines d'années.
Pas un million près. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une promesse qui est faite depuis Abraham.
Ouais.
Et sur tout le long de la Bible, en fait, ils l'attendent.
Ah, elle se réalise. Elle se réalise puisqu'ils vont aller avoir le territoire. D'accord. Ils vont avoir un roi.
Ouais.
Mais avec cette promesse est associée une loi, quelque chose d'autre. Or, il y a la réalisation, mais en même temps, il y a une infidélité. Et donc, ces deux choses contradictoires vont aboutir à la disparition apparente, et à une non-réalisation de la promesse. Mais en fait, parce que je viens de montrer, les prophètes vont réveiller cette promesse à un autre niveau. Vont lui donner toute la révélation biblique, c'est d'élargir. Il y a une promesse qui est, parce que les gens comprennent, très intéressés, si j'ai la prospérité, si je fais bien, j'aurai bien.
Ça ressemble à une... Pour éduquer, on va dire, on leur met une carotte. Et
si tu veux, il y a un peu de ça.
À chaque fois au niveau.
Voilà, à chaque fois au niveau. Ouais. Mais c'est le principe de l'éducation. Mm-hmm. Hein. Un enfant, vous n'allez pas lui faire un tas de discours. Hein. Donc là, on voit bien que ce Yahvé accompagne l'éducation. Hein, et lui promet un territoire, un roi. C'est, pour eux, les bases même du peuple, hein, d'un peuple. Or, là, il va casser ses limites. L'histoire, c'est l'histoire qui va imposer ça, hein, va casser ses limites, puisqu'eux, ils vont disparaître. Mais du coup, ils vont disparaître. Ce sont les composantes. Hein, mais ce Dieu va reprendre tout ce peuple, en particulier les pauvres. Il va les reprendre et il va renouveler la promesse. Mais cette promesse, à ce moment-là, va avoir une dimension nouvelle. On va ouvrir les yeux, puisqu'on a passé quand même un certain nombre. Donc, il y a bien un retour apparent. Puisque là, il a fait la promesse d'un retour au territoire, d'un retour à Jérusalem. Mais déjà, on va à Babylone, la question va être, mais c'est quoi exactement cette nouvelle promesse ? Est-ce que le territoire, ça sera vraiment... D'abord, il faut voir très concrètement que les Juifs qui se sont implantés à Babylone, eh bien, ils ont fait leur carrière. Beaucoup ont fait leur carrière. Ils ont même bien réussi. Certains ont très bien réussi. Ils sont devenus à des postes politiques, hein, importants. Certains ont exploité des terres, ils se sont enrichis, certains. Et ils n'ont aucune envie de revenir à Jérusalem. Hein. Aucune envie. C'était la pauvreté. Et il y avait une culture qui était très archaïque par rapport à la culture environnante de la Perse, enfin de Babylone. Culture non seulement matérielle, mais aussi spirituelle. Hein. Il y avait une Zarathoustra, c'était quand même une dimension spirituelle qui était... très, très élevé. Donc, il va y avoir toute une partie de la population qui va lire ces textes-là à un autre niveau. À un niveau, on va rentrer dans la pensée symbolique. Progressivement. Parce que concrètement, la plupart vont quand même penser à un retour. Marche arrière. Cette marche arrière disant, bon, on a été puni, et puis maintenant c'est fini, il nous pardonne, et on revient en arrière comme si rien n'était, quoi. Non. c'est pas un retour, c'est pas un retour au passé, c'est l'histoire évolue, hein, l'histoire avance. Hein. Et donc c'est une nouvelle compréhension, et cette promesse est une promesse nouvelle. Donc la notion de territoire, on va se poser la question en fait, hein, c'est qu'est-ce que ces textes-là, des prophètes, qu'est-ce qu'elles veulent concrètement nous dire? La question du roi, du pur roi. Hein, alors, ils vont dire, ben, quand on va revenir à Jérusalem, il y aura peut-être un nouveau roi. On va pouvoir remettre un nouveau roi. Hein. La question du temple. Du temple, eh bien, le temple a été détruit. C'est dans le temple qu'on faisait les sacrifices. Sans temple, où est le sacré? Vous voyez, hein, le sacré était incarné par ces institutions, donc par ces institutions, le roi et les prêtres. Il ne reste plus rien de tout ça. Où est le sacré? Et c'est là que se passe ce basculement, c'est que le sacré, ça va être la parole. Donc ce qui va être sacré, c'est d'étudier, de comprendre, de partager, d'appliquer la loi, d'appliquer la relation entre les personnes. Voilà où va se situer le sacré, dans l'intérieur de l'intériorité, et non plus dans des institutions externes. Donc la notion de peuple, là, il y a une très très grande mutation, hein, parce que les composantes sont complètement changées. Enfin, il y a une continuité quand même, hein, mais les termes qui sont utilisés vont être des images, des figures. Hein, et c'est là avec la pensée symbolique, on va reprendre exactement les mêmes termes, de nation, de peuple, de territoire, mais on va lui donner, ça va être la figure d'autre chose, beaucoup plus large. Hein, beaucoup plus large. Donc il y a une sorte de dilatation qui va se produire par cette catastrophe. Voilà ce que c'est ce travail des prophètes. Alors, je vous l'écris comme ça, mais bien entendu, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, ni sans souffrance, ni sans incompréhension, ni sans à coup, énormément de... Et donc il y a cette approche, cette ouverture qui va se produire, et c'est ce questionnement, surtout. Ce questionnement, hein, et en particulier, puisque Yahvé va promettre au peuple de revenir à Jérusalem, et effectivement, 50 ans, 60 ans plus tard, c'est Cyrus, l'empereur Cyrus qui va battre l'Empire, toujours l'histoire d'Empire entre eux, et ce qui est très très clair, c'est que dans la Bible, tous ces empires, toutes ces histoires qu'on connaît, hein, de ces empires qui se bouffent les uns les autres, dans la Bible, il y a une lecture où c'est Yahvé qui commande ces empires. Ils sont, donc Cyrus, qui est le roi sacré par excellence, dans la Bible, il va apparaître comme le serviteur de Yahvé. C'est un instrument. Les empereurs sont des instruments entre la main de Yahvé. Et cet instrument, ce Cyrus, donc, historiquement, va venir et va autoriser le peuple juif à revenir à Jérusalem. Ils vont pouvoir revenir et se réinstaller, et rétablir le temple. Mais ce rétablissement, après avoir eu un coup pareil, le rétablissement... C'est pas une reprise exacte de ce qu'il y avait avant. Donc, parce que la vie religieuse, alors si on peut parler, il y a la naissance de la religion juive, et cette religion juive, elle s'est faite, elle se construit hors du territoire, hors du temple, hors du sacré, lieu même du sacré, et va se construire dans des petites communautés d'exilés, de gens cabossés, hein, qui vont partager, et ça va être à l'origine, enfin, peut faire remonter à ça, l'origine des synagogues. Les synagogues qui sont des lieux de rencontre, qui ne sont pas des lieux de culte, a priori. Alors, dans ces lieux de rencontre, on va effectivement pouvoir prier, mais ce sont des lieux de partage et d'étude. Vous voyez que la religion, le judaïsme, va être tout à fait unique dans l'histoire des religions de l'humanité, hein, qui va être axé sur l'étude et l'application de la justice. Hein, l'application de la justice et la... Donc, ça va être ce nouveau cœur. Et ce développement du judaïsme va donner naissance à une élite, hein, ouais, une élite intellectuelle et spirituelle, qui vont être les scribes. Les scribes, c'est ceux qui vont écrire ces textes, hein, qui vont recopier, parce que l'écriture, c'était pas rien à cette époque-là. Hein, c'était pas... Il fallait écrire sur les papyrus.
En même, plus, ils répètent tout le temps la même chose.
Et voilà. Et toute la Bible, il faut quand même imaginer la taille des écrits, quand vous pensez que tout ça a été mis très laborieusement. Hein, et ça coûtait très cher en même temps, hein, par écrit. Donc, ces scribes avaient une place charnière, fondamentale. C'était pas uniquement des copieurs. Hein. Ils ont écrit, ils ont retravaillé les textes, et ils ont fait œuvre de création. Hein. On peut penser que l'histoire de la Genèse et tout ça, bon, il y a des traditions orales anciennes, mais ils ont fait œuvre de création, puisque l'épisode de la tour de Babel, ben c'est Babylone. C'est les tours, les jardins suspendus. Donc, ils étaient affrontés à ces cultures-là. Les mythes de Noé, tout ça, ça existait. Ils l'ont rencontré dans ces cultures. Donc, il y a bien un lien entre l'évolution d'Israël et l'évolution des cultures environnantes. Simplement, Israël va se nourrir de ces cultures et en donner un sens extrêmement spécifique. Tout à fait spécifique et précis. Donc, j'en étais où, là, dans mon fil Ils reviennent. Ils vont revenir. Oui, alors l'importance des scribes dans cette construction de cette nouvelle religion et des pharisiens. Alors, disons que c'est encore trop tôt de parler de pharisiens à proprement dit, parce que le terme apparaîtra que peu de temps avant Jésus-Christ. Mais les pharisiens, ce sont des gens qui vont non seulement étudier, mais appliquer d'une façon très, à la fois rigoureuse et très intérieure, la loi. Parce que cette loi, ils vont l'approfondir, hein, et la mettre en œuvre. Donc ce sont des gens qui ont une autorité sur le peuple. Hein, parce que c'est eux qui vont enseigner, hein, c'est des maîtres. Donc, c'est des rabbis, hein, c'est des maîtres. Donc, cette culture juive sera fondée sur ces maîtres, les scribes, les pharisiens, et va développer. Alors, au retour de Babylone, justement, au retour de Babylone, ils s'affrontent à est-ce qu'on recrée la même chose ou est-ce qu'il y a d'autres choses. Donc là, il y a le judaïsme va se diviser en différents courants. Hein, va se diviser en différents courants. On va avoir un courant un peu extrémiste, je dirais, de zélotes. Les zélotes, c'était l'extrémisme politique, en disant on revient, mais c'est pour reprendre la matérialité, la promesse, le pouvoir, le territoire. Hein. Donc il y a une lecture de ces textes qu'on peut lire d'une façon très matérielle. Donc, et ils vont dire, on a la promesse de Dieu pour rétablir la royauté, quitte à prendre les armes, quitte à prendre... d'ailleurs, il y aura un courant au IIe siècle avant Jésus-Christ où les armes seront prises et ils vont même recréer un pays avec une dynastie qu'on appelle la dynastie des Asmonéens. Donc il y a ce courant-là.
Oui. Et du coup, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus, ils n'ont plus les prophètes avec eux, enfin,
le temps. Alors voilà, c'est ben, les prophètes, ces textes-là, on peut les lire si on à différents niveaux. On peut faire une lecture très matérielle. C'est-à-dire, bon, on a ce territoire nous appartient matériellement, hein, et il faut, si on veut réaliser la promesse, ben, il faut en prendre les moyens. Hein, il faut en prendre les moyens, quitte à prendre les armes. C'est un courant, ça fait partie d'un courant. Il y a un autre courant, à l'autre extrémité, qui vont être les Esséniens, qui disent, mais non, pas du tout, pas du tout. Ces textes-là, ils vont les interpréter, les lire d'une façon très spirituelle. Et ils vont introduire l'émission de royaume. Que ce royaume, mais il n'est pas sur terre. Hein? Ce n'est pas la matérialité du royaume. C'est un royaume au-dessus. Au-dessus. Et là, on a effectivement l'influence des religions d'autres sagesses, hein, de ces régions. Et donc, il va introduire la notion d'un d'ici-bas et un au-delà. Et bon, je dirais qu'on peut les incarner par ce courant essénien qui va donner la naissance à un monachisme.